Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Peut-être avez-vous reconnu les premières notes de Fantasy, l'un des classiques du groupe Earth, Wind & Fire, écrit en 1977 par Maurice White, le fondateur de cette formation pop-funk des années 70 et 80, qui nous a quittés le 3 février dernier à l'âge de 74 ans. Nous rendrons hommage à ce pilier de l'épopée des musiques noires très prochainement dans cette émission, juste le temps de concocter un programme à la hauteur du personnage. Pour le moment, nous allons nous plonger dans le passé quand une jeune institution française, l'Académie du Jazz, vivait le bouillonnement musical du swing à l'écoute, par exemple, de Miles Davis, venu à Paris enregistrer la bande-son du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. C'était en 1957. C'est un voyage dans l'histoire que nous vous proposons cette semaine. Il y a 60 ans, les musiciens afro-américains comme Miles Davis, que nous venons d'entendre, avaient trouvé à Paris un havre de paix et un accueil inespéré. Le public, comme les jazzmen français, s'enthousiasmait pour une forme d'expression née au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Devant un tel engouement, l'idée de célébrer le swing des meilleurs instrumentistes paraissait inéluctable. C'est ainsi qu'est née l'Académie du Jazz, une institution que nous allons évoquer avec nos invités du jour, François Lacharme et Jacques Perrin. Messieurs, soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour et merci.
François Lacharme, vous êtes l'actuel président de l'Académie du Jazz et Jacques Perrin, vous êtes responsable du collège Soul Blues et membre de l'Académie depuis 1976. Mmh. Avant d'entrer dans le détail, rappelez-nous, François Lacharme, le contexte historique dans lequel est née l'Académie du Jazz. Nous sommes au milieu des années 50. Que connaît-on du jazz en France ?
C'est un débat très intéressant et surtout un peu contradictoire parce que tout le monde s'imagine que c'est l'âge d'or du jazz, 1955, Art Blakey, les Jazz Messengers, l'émission pour ceux qui aiment le jazz avec ce générique qui fait le tour de la France et même au-delà. Et en même temps, à Paris, on est dans le post-existentialisme, on sort dans les boîtes germano-pratines. Le vieux style, entre guillemets, n'y voyait aucune connotation péjorative et très bien représenté. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, Joe Farmer, il y a ces musiciens noirs américains en particulier qui traversent l'Atlantique, qui se sentent bien à Paris, qui se sentent considérés, qui ont l'impression que le public parisien non seulement est un bon public, mais il y a cette idée qui est tout à fait justifiée d'ailleurs, que c'est un peu plus que la musique, c'est aussi une culture. Le nombre de très grands musiciens qui s'installent à Paris, peu ou prou, momentanément ou un petit peu plus longtemps, est tout à fait édifiant. On parle de Miles Davis, qui en même temps récolte quelques fiancés au passage. On parle de Oscar Pettiford, le contrebassiste, qui est un des piliers du Club Saint-Germain. Kenny Clark, qui est resté jusqu'à la fin de ses jours un citoyen français aussi.
Sidney Bechet,
et que l'on voit au cinéma, bien évidemment, et qui est enterré d'ailleurs en banlieue parisienne. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Donc, Ce qu'on pourrait aussi rappeler, c'est que la création de l'Académie à cette époque-là correspond à un besoin. C'est-à-dire que oui, il y a du jazz en concert, oui, il y a un engouement auprès peut-être de quelques spécialistes ou de quelques initiés, mais il manque un outil promotionnel et puis peut-être qu'il manque une sorte de phalange très combative qui va dire « cette musique a le droit d'être défendue, il faut créer une association pour la défendre ». Et c'est ainsi effectivement qu'est née l'Académie du jazz autour de Boris Vian, autour d'André Clerjat, d'André Francis, à laquelle va s'accoler très rapidement un président d'honneur comme Jean Cocteau, mais je présume qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard.
Jacques Perrin, vous qui côtoyez des musiciens afro-américains depuis des décennies, que venait-il chercher à Paris selon vous ?
Les quelques musiciens de blues qui se sont installés à Paris, le premier a été Bibi Bronzi qui a passé quelques mois en France. D'ailleurs à l'époque on pensait que c'était le dernier des chanteurs de blues, avant de se rendre compte bien évidemment dans les années 60, suite à un voyage de Jacques Demaître aux États-Unis notamment, qu'il y avait une scène blues très vivante, très électrique, bien loin de ce côté folk blues qui était revendiqué un petit peu par Bibi Bronzi. Et donc là on s'est aperçu qu'il y avait une autre scène. Et ce sont les tournées de l'American Folk Blues Festival à partir de 1962 qui ont clairement établi la pérennité de cette musique tout à fait actuelle, avec des artistes comme Memphis Slim, par exemple, qui est venu s'établir en France à la suite justement de ces tournées de l'American Folk Blues Festival. Et sa réussite à Paris, il roulait notamment en Rolls-Royce, qui a beaucoup étonné ses confrères et a poussé certains à venir s'établir en France. On a eu ensuite Willie Mabone ou Eddie Boyd qui ont fait des passages en France, sans parler de Luther Allison, bien sûr, qui a été un Parisien pendant de longues années.
Est-ce que venir à Paris, c'était une manière de fuir la ségrégation raciale ?
Bien entendu, ça, tous les musiciens qui se sont établis à Paris, Memphis Slim, d'autres, Mickey Baker, Al Singer, etc., le disent sans détour, bien sûr.
De grands noms ont œuvré dès le début pour la promotion du jazz et de l'Académie. Jean Cocteau, que vous citiez, mais aussi Boris Vian, pour ne citer qu'eux. Et de grands instrumentistes ont été primés lors des cérémonies annuelles, dont Ronner Traeger et Pierre Michelot, qui jouaient avec Miles Davis sur la bande-son du film Ascenseur pour l'échafaud, que nous écoutions il y a quelques minutes. Ils ont chacun reçu le prix Django Reinhardt. C'est le plus prestigieux, le prix Django Reinhardt ?
C'est le prix phare, c'est celui que les musiciens qui en ont été les lauréats mettent en avant sur leur CV. C'est celui qui a aidé aussi à faire décoller de manière plus décisive certaines carrières. On peut dire aussi que c'est celui qui inspire parfois les patrons de festivals ou les programmateurs de festivals quand ils ont une hésitation à programmer tel ou tel musicien. Pour résumer, on peut dire que le prix de Django Reinhardt, c'est un prix qui, en quelque sorte, récompense une première maturité chez un musicien incontestable. Si vous regardez la liste des prix de Django Reinhardt, elle est très édifiante cette liste.
C'est vrai.
En fait, on a raté Didier Lockwood qui n'a pas eu le prix de Django Reinhardt. On a raté Birelli Lagrène, mais tous deux auraient mérité absolument d'avoir le prix de Django Reinhardt, et j'en oublie quelques-uns. Mais disons qu'en gros, je pense que c'est un corpus de lauréats qui fait honneur à l'Académie.
Il y a d'autres prix, comme le prix du jazz vocal, il y a le prix du disque français, il y a le grand prix de l'Académie du jazz, et puis il y a aussi les prix donc soul et blues. Est-ce que vous avez en mémoire, Jacques Perrin, quelques grand lauréat des 50 dernières années.
Des 50 dernières années, moi ça fait 40 ans seulement que je suis dans cette commission. Là aussi, en regardant la liste de ces 40 noms, que ce soit dans la rubrique soul ou dans la rubrique blues, comme pour le prix Django Reinhardt qu'évoquait François Lacharme, je pense qu'on n'est pas passé à côté de musiciens absolument emblématiques. Je veux dire, on les a tous repérés avec notre radar. Quelquefois aussi, on a repéré des musiciens très très prometteurs sur un premier ou un deuxième album, et puis c'est avéré que leur carrière ne s'est pas maintenue au même niveau, et quelquefois, ils sont même retombés dans l'anonymat. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a primé les artistes qu'il fallait primer à ce moment-là.
Quelques noms, par exemple.
La première année où j'ai œuvré dans cette commission Blues et Soul de l'Académie, j'ai eu le bonheur de voir récompenser un artiste que j'appréciais particulièrement. C'était Johnny Guitar Watson, qui revenait sur la scène et qui avec un album qui s'appelait In Death Beach. Merveilleux disque de funk blues. Et on a pu le lui remettre directement, ce prix. Ça, c'était aussi formidable, parce que les musiciens qui sont récompensés ne sont pas forcément disponibles.
Là, je regrette de ne pas avoir été là, franchement,
oui.
Jacques. Là, tu m'apprends quelque chose.
Il a donné un concert au Bataclan, salle mythique parisienne, et on lui a remis ce prix de l'Académie du Jazz. Alors d'autres noms, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Forcément Solomon Burke, forcément Ray Charles, Ovie Wright, c'est un des grands héros de la soul music du sud des États-Unis.
Méconnu,
mais qui méritait très largement son prix. Plus récemment, il y a eu Betty LaVette, bien sûr, il y a eu Candice Staton, il y a eu même David Sanborn, par exemple, pour un album plus soul que les autres, qui s'appelait Who's Hurting Now.
Ouais. Et pourquoi avez-vous choisi justement David Sanborn? En d'autres mots, comment vous déterminez les éventuels lauréats chaque année? Quel est le processus de sélection?
Le processus est tout à fait naturel, c'est-à-dire que l'on regarde les disques qui sont sortis dans l'année, qui sont si possible disponible en France, du moins ça c'était quelque chose qui était important jusqu'à ces dernières années, il fallait que le disque soit édité en France, disponible chez les disquaires. On sait que depuis quelques années la donne a un petit peu changé et que la musique se diffuse par d'autres canaux, et un disque maintenant, une musique, un album qui est produit se trouve immédiatement disponible, achetable partout dans le monde.
C'est vrai.
Donc ce verrou a sauté, mais pendant très longtemps, bien sûr, il fallait que le disque soit disponible en France. Alors je me souviens plus quels étaient les compétiteurs en 2008 qui nous ont fait choisir ce disque de David Sanborn plutôt qu'un autre, mais le collège a estimé que parmi tous les disques qui étaient proposés, c'était celui qui était
le plus soul.
Le plus soul et le plus novateur, ou le plus intéressant en tout cas au point de vue aussi bien du soliste que de cet accompagnateur et que du répertoire bien sûr aussi.
Je ne sais pas si elle sera primée cette année, mais j'aimerais beaucoup que la chanteuse Shemeika Copeland gagne un prix. Vous pouvez nous la présenter d'ailleurs, Shemeika Copeland?
Ah, Shemeika Copeland, d'abord c'est la fille d'un immense bluesman qui s'appelait Johnny Copeland, qui a eu son heure de gloire dans les années 1990, et il a fait partie justement de ces rares musiciens afro-américains qui sont allés en Afrique, justement, pour se frotter un peu à leurs racines. Il en a fait un très très bel album. Et donc, Shemeika Copeland, elle est new-yorkaise et c'est la fille de son père. Elle a baigné très très jeune dans cette atmosphère blues-soul. Et elle a été signée très jeune, je sais pas, à l'âge de 16 ans peut-être, par le label Alligator, qui est un label qui compte en matière de blues. Et depuis, elle n'a jamais déçu. Je veux dire, elle a fait peut-être une quinzaine d'albums, tous intéressants, avec des producteurs comme Dr. John, comme Steve Cropper, comme des gens comme ça, et à chaque fois on a l'impression qu'elle gravit encore une marche, qu'elle explore d'autres horizons, et son dernier album est absolument tout à fait remarquable.
Voici un extrait de Outskirts of Love, le dernier album de Shemeika Copeland. In Love Again, une composition du bluesman Albert King, revitalisée en 2015 par la chanteuse Shemeika Copeland sur l'album Outskirts of Love. Nous évoquons cette semaine une institution française, l'Académie du Jazz, qui depuis 60 ans veille à la promotion du jazz et des musiques qui s'en rapprochent, avec une constance qui force l'admiration. Malgré tout, est-ce que ce terme, Académie, n'est pas un peu pompeux pour un genre musical qui se veut libre et improvisé, François Lacharme?
C'est un fardeau lexical qu'on porte sur nos épaules depuis le début. À l'époque, je crois que lorsque les fondateurs ont désiré à l'appeler l'Académie du Jazz, c'était justement pour donner au jazz cette sorte de, je sais pas comment appeler ça, une notabilité bourgeoise, peut-être une manière d'installer cette institution dans l'esprit des gens et peut-être dans l'esprit aussi d'autres institutions. Je pense que l'Académie du Jazz est complètement anti-académique. J'ai d'ailleurs écrit assez souvent pour plein de raisons. D'abord les personnalités qui la composent, d'autre part le fait qu'on est à l'opposé de cette maladie qui ronge l'esprit aujourd'hui et qui s'appelle la bien-pensance. Et je crois aussi que le système de vote que j'ai beaucoup contribué à assainir et à rendre encore plus indépendant fait que le tamis est très ouvert au départ et que on peut vraiment s'exprimer quand on est académicien, et c'est la même chose je présume au niveau des commissions, on peut vraiment exprimer ses goûts, ses convictions, et après par le système logique de l'écrémage on arrive à un choix. Mais elle est aussi anti-académique parce que la nature des débats que nous avons lorsque nous nous réunissons en Assemblée Générale avant le vote tient, comment est-ce que je pourrais appeler ça, du combat de boxe maîtrisé avec l'arrivée de l'arbitre avant le chaos final.
Donc des débats houleux parfois.
C'est assez amusant parce que chacun peut s'exprimer et puis après évidemment tout le monde rentre dans le rang, c'est le vote bulletin secret. Bon, voilà.
Qui compose l'Académie ?
Alors, je parlais d'indépendance. Il n'y a aucun représentant des maisons de disques, des distributeurs, des quoi que ce soit. On tient absolument à être très très indépendant de ce point de vue-là. Il n'y a pas de musiciens non plus, sauf un ou deux, mais qui étaient là depuis très longtemps et qu'on n'a pas voulu excommunier parce que musicien égale copinage, etc. Bon, imaginez bien que ça peut pas fonctionner vraiment avec l'idée d'indépendance. Ce sont des journalistes, ce sont des producteurs de concerts, par exemple, des programmateurs, plus exactement, des photographes, des écrivains et des observateurs patentés de cette musique.
Donc des spécialistes.
Des spécialistes. J'aime pas trop le terme spécialiste parce que tout de suite on pense spécialiste, on va rien comprendre, c'est une sorte de langage un peu ésotérique. Non, ce sont des gens qui ont professé leur amour pour cette musique et en quantité équivalente à leur amour pour cette musique, il y a une connaissance profonde de cette musique. Et c'est ça le critère discriminant, s'il doit y en avoir un.
Donc ces spécialistes ne risquent pas de transformer l'Académie en une institution élitiste ?
Je suis très gêné pour répondre à cette question, parce que, qu'on le veuille ou non, le jazz est quand même un peu une musique élitiste. Alors, on va pas lancer le débat aujourd'hui, mais c'est une musique qui réclame de posséder quelques codes, une sorte de vademecum à minima qui permettent de comprendre un peu comment ça fonctionne, un concert de jazz, comment fonctionne un groupe de jazz, etc. Mais elle n'est pas élitiste dans la mesure où, très rapidement, le goût qu'on peut avoir pour cette musique, il est lié à des choses que l'on ressent presque charnellement. Moi, j'ai toujours dit que le jazz, ça parlait autant au corps qu'à l'esprit. On dit encore, et c'est tout à fait vrai, que le jazz est la plus populaire des musiques savantes et c'est la plus savante des musiques populaires. C'est encore en grande partie vrai. Donc, élitiste, oui, avec quelques réserves.
Est-ce que le collège Soul Blues, parfois, n'est pas à 100 lieues de ce qui se vend réellement dans le commerce, Jacques Perrin ?
Ça, c'est vrai que c'est pas une question qu'on se pose du tout. Bon, d'abord parce que les chiffres du blues, malheureusement, ne sont peut-être pas tellement significatifs. Et puis, aujourd'hui, encore une fois, avec la dématérialisation de la musique, les disques d'or ont disparu quasiment, ça ne veut plus rien dire. De toute façon, ce sont pas des critères qui sont pris en compte.
Quel impact peut avoir un prix de l'Académie sur la carrière d'un artiste ?
Oui, je pense pas que ce soit une réponse immédiate en termes de vente sur un album en particulier, sur l'album primé peut-être à minima, mais je ne pense pas que ce soit vraiment très très important. En revanche, c'est vrai que pour la notoriété de l'artiste, pour, comme le disait tout à l'heure François, pour les prix de Django Reinhardt, mais c'est vrai aussi pour tous les gens qui sont primés, mettre sur le CV qu'ils ont obtenu de telle année le prix du meilleur disque de blues, de soul, de jazz européen, etc. Je pense que ça, vraiment, ça joue, et ça leur permet surtout, peut-être plus que de vendre des disques, de trouver des engagements. Pour des concerts, pour des festivals, et ça, ils y sont bien sûr forcément très sensibles.
Et puis négocier de nouveaux contrats avec de nouvelles maisons de disques.
Peut-être aussi.
Est-ce que Michel Petrucciani ou Jean-Luc Ponty ont vu leur notoriété croître après avoir reçu le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz?
Il y en a un qui pourrait répondre, c'est Jean-Luc Ponty, puisqu'il est encore parmi nous, et mieux que jamais, si je puis dire, puisqu'il joue admirablement bien, il n'a peut-être jamais aussi bien joué qu'aujourd'hui. Michel Petrucciani, malheureusement, n'est pas là pour répondre. Mais je suis certain qu'à un moment ou à un autre, ce prix Django Reinhardt a permis de catalyser quelque chose qui était sous-jacent peut-être. S'agissant de Michel Petrucciani, sa carrière a décollé quand même assez vite et puis il est devenu très rapidement une star internationale.
Michel Petrucciani a reçu le prix Django Reinhardt en 1982. Le violoniste Jean-Luc Ponty a reçu son prix en 1966. Personnellement, je lui aurais bien décerné une distinction en 1991 pour cet album-là. Thank you. Fin de Motte, Jean-Luc Ponty, entouré de Brice Wassy, Guy Sangué, Yves Jock et Abdou Boup sur l'album Chocolat paru en 1991. Jean-Luc Ponty qui vient de faire paraître chez Impulse un nouvel album, François Lacharme.
Vous voulez que je vous raconte l'histoire du disque?
Rapidement.
Oui, bon, c'est une histoire comme il en arrive de temps en temps. J'ai presque tendance à dire que c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai organisé au Théâtre du Châtelet un hommage de son vivant à Jean-Luc Ponty. Et on réfléchissait à la façon de créer un autre groupe à l'intérieur d'une soirée qui était à la fois rétrospective, en même temps un peu prospective. Et à force de discuter, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un nouveau trio à cordes. Mais à la place d'avoir Aldi Meola, ce serait formidable d'avoir Birelli Lagraine, quoi. Et bingo, on l'a fait. Et le résultat pendant le concert a été tellement exceptionnel que la première envie que j'ai eue à la suite de ce concert, ça a été de les réunir à nouveau. Et on a mis du temps, mais je les ai réunis à nouveau avec Jean-Philippe Allard, qui a été très très productif aussi à mes côtés, puisqu'il a trouvé l'idée du projet tout à fait défendable. Et on est allé ensemble à Bruxelles avec les trois musiciens pour enregistrer cet album qui est sorti il y a peu.
Qui s'appelle D Strings.
D Strings. Ouais.
Nous écoutions il y a un instant le métissage musical du jazz à travers Chocolat. Est-ce que la diversité culturelle de notre beau pays est bien représentée dans les choix de l'Académie du jazz, François Lacharme?
Il y a deux façons de répondre. Il y a une façon qui est purement froide, statistique, et là on va tomber dans les ambiguïtés des statistiques ethniques, etc. On peut très bien considérer que la diversité peut être améliorée dans un sens ou dans l'autre. On se pose pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est la musique. Et on constate que, quelle que soit la couleur de peau du lauréat ou du nommé, c'est bien la musique qui prime. Et d'ailleurs, ce qui serait très intéressant un jour, c'est avec de très bonnes oreilles, en faisant un test à l'aveugle, passer un disque d'un musicien, un pianiste noir, par exemple, un pianiste blanc, qui serait à peu près de la même génération, sur un répertoire à peu près commun. Est-ce qu'on pourrait arriver à tirer des conclusions sur les origines ethniques de l'un ou de l'autre de ces pianistes, on serait complètement largué. Et d'ailleurs, ça n'aurait encore une fois pas beaucoup de sens. Peut-être que ça ou là, on pourrait, par le système des filiations lointaines, retrouver un sens du rythme peut-être plus prononcé chez tel ou tel pianiste, une connaissance du ragtime qui a percolé, par exemple, comme ça, génération après génération. Et alors, on pourrait évidemment débattre sur les origines du jazz, c'est encore autre chose, pour s'apercevoir que, encore une fois, le problème est extrêmement complexe.
Cela dit, de nombreux lauréats ont prouvé leur attachement pour les échanges interculturels. Je pense au contrebassiste Henri Texier ou au batteur Simon Goubert, qui a récemment collaboré avec le célèbre joueur de kora Ablaï Sissoko. En voici d'ailleurs une preuve formelle. Caméléon, un extrait d'African Jazz Roots, signé Simon Goubert et Ablaï Sissoko. Simon Goubert qui a reçu le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz en 1996. Je le disais en début d'émission, l'Académie du Jazz fête ses 60 ans et le 8 février prochain, c'est lundi, aura lieu une soirée exceptionnelle à Paris. Dites-nous tout, François Lacharme.
Pour une fois, il n'y aura pas de petite cérémonie méritocratique avec les stars du showbiz qui viennent remettre leur prix pour justement célébrer chaque année le palmarès de l'Académie du Jazz. Cette fois-ci, j'ai voulu que ce soit de la musique. Donc, il y aura 99% de musique et 1% de remise de trophées à des lauréats qui seront présents. Alors, la musique, tout d'abord, en première partie, un octet complètement inédit de lauréat du prix Django Reinhardt, un octet multigénérationnel. Et la deuxième partie, c'est une idée qui apparaît comme ça un peu saugrenue, mais qui a été parfaitement réfléchie aussi, c'est le Duc Orchestra de Laurent Mignard, qui est connu maintenant internationalement pour être un des parangons les plus fiables et les plus inspirés et les plus précis aussi de l'œuvre de Duke Ellington en grand orchestre. Et il y aura trois invités, très inattendus, le saxophoniste multi-enchiste aussi John Serman, le chanteur et guitariste San Severino et Jean-Luc Ponty. Donc c'est une soirée qui va être très complète et je crois qui sera quasiment à guichet fermé au Théâtre du Châtelet le 8. Oui.
Résultat donc lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris et sur la page Facebook de l'épopée ainsi que sur Twitter dès que nous aurons les noms des gagnants. Quel suspense! Merci messieurs de votre participation à cette émission et longue vie à l'Académie du Jazz.
Merci beaucoup, Joe Farmer.
Et merci à Nathalie Laporte pour cette réalisation très académique. Je vous rappelle qu'en raison de la disparition de Maurice White, le fondateur du groupe Earth, Wind & Fire, survenu le 3 février dernier, nous bousculerons bientôt le planning de l'épopée en vous proposant un hommage à ce grand personnage en compagnie de ses anciens comparses. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.